franceinter.fr.
Marcel !
On se souvient d'une atmosphère parce que des jeunes filles y ont souri.
Au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la petite Madeleine.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
On se souvient d'une atmosphère parce que des jeunes filles y ont souri. Il y a une beauté du souvenir chez Proust, comme en témoigne cette phrase extraite de La Prisonnière, le cinquième volume d'À la recherche du temps perdu. Une beauté qui surprend, car elle surgit à l'improviste, autant pour le narrateur que pour le lecteur. La réminiscence involontaire, si elle peut être douloureuse, comme nous l'avons vu hier soir, peut aussi être pleinement heureuse. C'est une madeleine que l'on trempe dans une tasse de thé. C'est le bruit d'une cuillère qui nous rappelle celui d'un train sur le départ. C'est aussi l'odeur d'une serviette qui nous remet à l'esprit celle d'un autre linge. Ce soir, pour cette dernière émission consacrée à la temporalité dans la recherche, je vous propose de suivre notre héros dans sa lutte contre la fuite du temps. Que nous révèle vraiment cette fameuse madeleine de notre existence? Et surtout, quelle est l'ultime leçon délivrée par Marcel Proust dans ce roman? On en parle ce soir avec Antoine Compagnon.
Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher, n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusais d'abord, et je ne sais pourquoi, me ravisais. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelée Petite Madeleine, qui semble avoir été moulée dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine.
Bonsoir Antoine Compagnon.
Bonsoir.
André Dussolier lisait les quelques lignes autour de la célèbre Madeleine qui se trouve au tout début de Du côté de chez Swann. J'aimerais revenir avec vous sur cet épisode de la mémoire involontaire qui passe, selon Proust, par le corps. C'est notre corps qui serait en fait le plus à même de nous faire accéder au petit bonheur du passé.
Toutes les premières pages de La recherche du temps perdu parle du corps, c'est ce réveil, cette expérience du réveil du héros dans une chambre inconnue, c'est une expérience que nous connaissons tous. Nous nous réveillons dans une chambre et nous ne savons pas où nous sommes. Et c'est pourquoi cette expérience a quelque chose de très troublant pour la définition de notre identité. Comment se fait-il que chaque matin, au réveil, nous nous retrouvions et nous, habitions de nouveau notre personnalité. Et les premières pages sont donc consacrées à ce trouble du réveil, qui à mes yeux est un peu le même d'ailleurs que le trouble de l'entrée dans un roman. On a le même trouble quand on entre dans un roman et qu'on ne sait pas où on est et que peu à peu on trouve son chemin et on se reconnaît dans ce roman. Donc il y a beaucoup sur le corps, et je crois que c'était quelque chose de très nouveau de parler du corps, notamment du corps masculin, parce que dans la littérature du 19e siècle, quand il s'agit de corps, et dans la poésie, il s'agit plutôt de corps féminin. Et donc la mémoire involontaire, en effet, c'est la mémoire du corps, c'est la mémoire de la sensation, par opposition à cette mémoire volontaire qui est la mémoire de l'intelligence. N'oublions pas que La recherche du temps perdu, c'est un procès de l'intelligence. Et Proust oppose la sensation, l'intuition, à l'intelligence. Et la Madeleine, c'est typiquement un épisode où on a l'intuition de quelque chose d'autre que la réalité banale, l'intuition d'une réalité supérieure, puisque cette sensation vous apporte l'extase. Et bien sûr, on aura la solution que beaucoup plus loin, des milliers de pages plus loin, mais on a déjà le récit de cet intense bonheur lié à l'impression du corps.
Antoine Compagnon, on a finalement cette idée dans ce livre qu'il y a quelque chose qui échappe à la destruction totale de notre être et de notre corps. Ce sont ces bribes d'existence qui donnent au narrateur la sensation du bonheur.
Ce qu'il raconte ou ce qu'il décrit, ce sont ces moments de bonheur, mais aussi de malheur, on l'a vu, où soudain, deux temps s'entrechoquent. Il y a cette sorte de choc du présent et du passé qui fait qu'on se retrouve dans un autre temps, ni dans le présent, ni dans le passé, mais qu'on touche à une sorte d'essence de la temporalité à travers cette expérience. Bon, on pourrait aussi dire que c'est déjà un peu le choc des surréalistes, qu'il y a quelque chose de très moderne, et puis en même temps il y a quelque chose d'éternel dans cette affaire. Lorsque Baudelaire nous disait que la modernité c'était extraire la beauté éternelle de la beauté fugitive et éphémère, c'est un petit peu du même ordre aussi. Quoi de plus éphémère que le goût de la Madeleine, et en même temps cette Madeleine nous donne un sentiment d'éternité. Et Proust associe cela à la métaphore. C'est ça qui sera le ressort de son écriture et le ressort de son style, ce choc, et puis quand même, au-delà du choc, une certaine synthèse. Et c'est pourquoi Proust est aussi un romantique et un classique, peut-être le dernier des romantiques. On parlait hier ou avant-hier, je ne sais plus, de Beckett et de la manière dont il mettait fin à cette grande tradition romantique. Mais Proust lui appartient encore.
Un été avec Proust. Oh. Antoine Compagnon. Laura El Maki.
Alors je vous propose d'écouter une page essentielle de la recherche dans Le Temps retrouvé. Le narrateur qui traverse la cour de l'hôtel de Guermantes bute sur des pavés inégaux qui lui rappellent les dalles de la place Saint-Marc à Venise. Et voici la réflexion qui suit cet instant de réminiscence et l'extrait nous est lu par Denis Podalydès.
Tant de fois au cours de ma vie, la réalité m'avait déçu parce qu'au moment où je l'apercevais, mon imagination, qui était mon seul organe pour jouir de la beauté, ne pouvait s'appliquer à elle, en vertu de la loi inévitable qui veut qu'on ne puisse imaginer que ce qui est absent. Et voici que soudain, l'effet de cette dure loi s'était trouvé neutralisé, suspendu, par un expédient merveilleux de la nature qui avait fait miroiter une sensation, bruit de la fourchette et du marteau, même titre de livre, etc., à la fois dans le passé, ce qui permettait à mon imagination de la goûter, et dans le présent, où l'ébranlement effectif de mes sens par le bruit, le contact du linge, etc., avait ajouté au rêve de l'imagination ce dont ils sont habituellement dépourvus, l'idée d'existence, et grâce à ce subterfuge avait permis à mon être d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser la durée d'un éclair, ce qu'il n'appréhende jamais. Un peu de temps à l'état pur. Qu'un bruit, qu'une odeur, déjà entendue ou respirée jadis, le soit de nouveau, à la fois dans le présent et dans le passé, réel sans être actuel, idéaux sans être abstrait, aussitôt l'essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée. Et notre vrai moi qui, parfois depuis longtemps, semblait mort, mais ne l'était pas entièrement, s'éveille, s'anime en recevant la céleste nourriture qui lui est apportée. Une minute affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous, pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps. Et celui-là, on comprend qu'il soit confiant dans sa joie, même si le simple goût d'une madeleine ne semble pas contenir logiquement les raisons de cette joie. On comprend que le mot de « mort » n'est pas de sens pour lui. Situé hors du temps, que pourrait-il craindre de l'avenir ?
Situé hors du temps, que pourrait-il craindre de l'avenir ? Finalement, après la recherche comme roman de la déception, comme cette suite de déception, il y aurait la promesse d'un futur moins douloureux.
Oui, je crois que la lecture que nous sommes conduits à faire de la fin de la recherche du temps perdu, c'est celle de ce rachat, de ce rachat du passé, de cette rédemption dans l'avènement de ce temps à l'état pur, dans l'avènement de cet affranchissement de l'ordre du temps.
Oui, c'est ça, le mot est écrit « affranchi », le narrateur est enfin libéré du temps. Il est hors du temps.
Il est en quelque manière hors du temps et en même temps, ensuite, après cet épisode, il y a le bal de tête. Et dans le bal de tête, on retrouve notre dépendance à l'égard du temps dans ce portrait de tous ces masques qui ont été affectés par l'âge, qui sont vieillis, qui sont en mauvaise santé, qui s'approchent de la mort. Et au fond, il n'y a que le narrateur lui-même, que la littérature qui pourra s'affranchir du temps.
Alors justement, parlons de cette littérature que Proust envisage de manière assez particulière. Il nous montre à quoi sert la littérature en fait.
Oui, il a une conception très élevée de la littérature. Il a une conception, on l'a dit, romantique de la littérature, une conception métaphysique, transcendante de la littérature qui se rattache d'une certaine façon à la pensée du XIXe siècle. C'est le dernier grand roman du XIXe siècle, en ce sens, puisqu'il nous propose vers sa conclusion cette note d'espérance.
Alors, avec la recherche, Proust est finalement parvenu à parler du temps, à l'écrire, peut-être comme aucun autre auteur ne l'avait fait avant lui.
Oui, assurément. Mais n'oublions pas quand même qu'au-delà de toute cette théorie du temps, cette théorie de la mémoire, c'est un très grand roman romanesque, c'est un très grand roman comique. Hein. Je voudrais surtout pas que les auditeurs en ressortent avec l'idée qu'il s'agit d'un roman philosophique. Non, non. Il y a quelques grandes idées dans ce livre, mais si on le lit et si on se passionne pour lui, c'est en raison de sa dimension de grand roman romanesque.
Alors parlons de cette notion de roman philosophique. Que peut-on dire de ce roman qui flirte avec les philosophes et avec une pensée en mouvement?
C'est vrai que au tout début, lorsqu'il s'y est mis en 1908, il y a une réflexion très touchante dans le carnet que Proust tenait à l'époque, où il se demande si de son idée du temps, de son idée de la mémoire, il doit faire un roman ou un essai philosophique. Suis-je romancier ? Se demande-t-il. Et le prodige, c'est en effet que ce livre n'appartient à aucun genre. C'est un roman, puisqu'il y a des personnages, puisque ces personnages évoluent, puisque certains de ces personnages sont très épais, comme Charlus, comme la mère, comme la grand-mère. C'est des personnages mémorables qu'on n'oubliera jamais. Et en même temps, c'est un roman qui donne à penser sur la vie, sur la mort, sur l'amour, sur le temps, sur le vieillissement, sur la mémoire, sur beaucoup de choses, et aussi sur la politique, sur l'humour.
Qu'est-ce qui vous charme le plus dans ce roman, s'il y avait une partie, un thème, une idée, un mot à retenir?
Ouh là là, là vous me posez une colle à laquelle je n'étais pas préparé. Chaque fois que je l'ai lu, chaque fois que je le lis, je suis sensible à autre chose. Dans mes plus récente lecture, ce à quoi je suis sensible, c'est à toutes ces questions de troubles de l'identité. Je suis sensible à cette idée, à ce thème qui revient souvent dans le livre, où le héros voudrait tenter de se voir de l'extérieur. Et bien entendu, c'est impossible. Donc en ce moment, c'est ça qui m'intéresse, mais ça sera autre chose à la prochaine lecture.
Merci beaucoup Antoine Compagnon d'avoir inauguré cet été proustien à mes côtés. Je rappelle que Proust entre deux siècles a paru aux éditions du Seuil, que La classe de Réto, votre roman, a récemment paru chez Gallimard, et je signale évidemment la sortie du livre Un été avec Montaigne, qui synthétise votre série d'émissions diffusée l'été dernier sur France Inter. Merci à Audrey Ripouille pour la réalisation de cette émission, assistée à la technique de Pierre-Yves Derolin et à Emmanuel Fournier et Valentin Pérez pour leur préparation.